Notre super Lavoie.
Oui, monsieur. Monsieur, vous êtes à Drainville, d'accord?
C'est monsieur, ça va? Monsieur Bernard.
Bernard.
Appelez-moi Bernard.
Hi, Bernie.
appelez-moi T-Burn. J'ai des amis qui m'appelaient T-Burn, d'autres qui m'appelaient Bidding. Bidding, ça, c'était mon surnom à l'île du Pas. Bidding, Bedang.
Ça t'est resté, ça.
Hein? Oui, ça m'est resté. Je sais pas d'où ça vient. À un moment donné, je me suis dit, mais peut-être BD, tu sais, Bernard Drainville, BD, Bidding, Bedang. En tout cas, je sais pas. Peut-être je me suis fait rentrer dans la bande à un moment donné, puis ça a fait Bidding, Bedang. En tout cas. Alors, mon cher Luc, on va commencer par la politique américaine, parce que mine de rien, la transition s'en vient, et puis notre Donald, il va faire parler de lui jusqu'à la fin.
Ah, ça, c'est clair. D'abord, on voit les images de, pour ceux qui sont devant un téléviseur quelque part, de M. Biden qui quitte Wilmington, Delaware, sa ville, de façon définitive pour aller s'installer à Washington. Il y va par train. Et pendant ce temps-là, et vraiment, je l'ai vu en direct, et franchement, c'est assez frappant. Mitch McConnell, le vieux renard, celui qui était leader, il l'est jusqu'à demain,
ouais,
de la majorité sénatoriale. Celui qui était accusé d'être le chien-chien de Trump, ouais, ben là, il a pris ses distances graduellement, mais ce matin, dans un discours au Sénat que j'ai vu en direct,
ouais,
il a dit « Les partisans de Donald Trump qui ont envahi le Capitole le 6 janvier ont été, et je le cite, « abreuvés de mensonges » et à nouveau une citation est « incités à agir par le président américain ».
Oh.
La foule a été abreuvée de mensonges. Elle a été incitée à agir par le président et d'autres personnes puissantes, dit-il.
OK, wow. Fait que là, il attribue à Trump la responsabilité de l'assaut.
Ah, complètement. Il dit c'est lui qui les a incités. D'abord, il les a abreuvés de mensonges. Hein, puis ensuite, il les a incités à faire ce qu'ils ont fait.
Donc, est-ce que ça pourrait l'amener à voter pour l'impeachment, la destitution?
Ben, oui, tout le monde pense qu'il va finir là, parce qu'il a déjà dit à plus d'une reprise qu'il n'avait pas encore pris sa décision, qu'il voulait entendre les arguments au Sénat. Mais je pense que ce que fait Mitch McConnell, c'est le calcul, ben, je ne sais même pas si on peut appeler ça un calcul. Il se dit, lui qui est un vieux renard de l'establishment républicain traditionnel, Il a été fidèle, il a été loyal à Trump jusqu'à la fin, et là, il se dit, ce gars-là qui nous a enlevé notre parti, on le reprend. Alors, en prenant
on reprend le parti. Mais il tourne le dos à l'héritage de Trump.
Complètement. Et en même temps, n'oublie pas que dans la dernière élection, t'as une femme qui est une grande fanatique de QAnon qui a été élue.
Ouais.
T'as des gars comme Josh Hawley, Ted Cruz. C'est comme si McConnell est en train de leur dire « Branchez-vous parce que j'emmène plus large que vous autres. Vous allez trouver le temps long si vous vous branchez pas. Hein? »
Mais il va y avoir un grand... un grand choix là que les républicains vont devoir faire, Luc, où ils larguent Trump une fois pour toutes, où certains d'entre eux décident de rester fidèles à Trump, et à ce moment-là, le Parti républicain pourrait vivre un schisme.
Ah non, c'est clair qu'on est devant ça.
Ouais.
Et moi, je me dis que l'espèce de bande de têtes brûlées qui ont suivi Trump, les Ted Cruz et les autres ont peur qu'ils cessent de voter républicains. Alors, ils se disent, il faut que je garde cette base-là de vote. Je sais pas comment ça va finir. Moi, personnellement, mon opinion, c'est que Trump va disparaître des écrans radars beaucoup plus vite qu'on pense.
Bon.
Et les gens qui l'ont appuyé aveuglément, soudainement, s'en souviendront plus. Le même phénomène, je me souviens d'avoir lu une biographie du sénateur Joe McCarthy. Tu sais, le gars qui faisait la chasse aux communistes, puis qui a détruit des carrières, puis qui a fait en sorte que Charlie Chaplin a été exclu ou chassé du pays. Joe McCarthy, tout le monde se réclamait de lui, puis à un moment donné, ça s'est mis à tourner au vinaigre, et il n'y a plus personne qui se souvenait d'avoir appuyé McCarthy. On ne s'en souvenait plus. Soudainement, il y avait une mémoire. En tout cas, continuons sur les préparatifs
Parle-nous de ces deux membres de la garde nationale, voilà.
Comme tu sais, depuis lundi, depuis hier, le FBI a reçu le mandat, le FBI et la CIA, le mandat de la garde nationale de passer au peigne fin les antécédents de tous les membres de la garde nationale. Ils sont 25 000 à Washington parce qu'ils avaient entendu dire que ça avait peut-être été infiltré dans certains endroits au pays.
Mm.
Parce que pour être 25 000 à Washington, ils viennent de partout au pays.
Bien sûr.
Il n'y a pas mort. Alors, il y en a deux. Puis c'est un processus qui n'est pas terminé, mais à l'heure actuelle, il y en a deux soldats de la Garde nationale qui ont été retirés de la force de protection à Washington pour des raisons de sécurité qu'ils refusent de révéler. Mais enfin, ça nous dit que le danger était réel. Autre nouvelle, je te donne ça en vrac, le général John Kelly, qui a été le directeur du cabinet du président Trump pendant près de 2 ans, il a refusé l'invitation que lui a fait parvenir la Maison-Blanche pour assister à la cérémonie de départ du président, parce que tu sais que M. Trump exige d'avoir les pleins honneurs militaires, parce qu'au moment où il va quitter, puisqu'il ne participera pas à la sermentation comme c'était la coutume, il va être encore président et commandant en chef. Alors, il exige que les forces armées lui rendent un hommage militaire à grand déploiement, ce qui, semble-t-il, va se produire à Andrews Air Force Base. Kelly a dit « Non, merci, j'irai pas ». Et là, la grande question, c'est « Est-ce que le vice-président Pence, qui, lui, va participer à la cérémonie d'assermentation et à qui on va, en quelque sorte, confier le rôle d'un président sortant, est-ce que Mike Pence va également assister au départ de M. Trump de Washington? » On ne le sait pas. On ne le sait pas.
J'espère que non.
Et j'espère que non. Je trouve que ce serait en droite ligne avec ce qu'il a fait depuis la semaine dernière. Mmh. Et pour terminer sur les États-Unis et ces préparatifs-là, on s'attend à n'importe quel moment à ce que Trump annonce et procède et annonce une centaine de pardons présidentiels. On a hâte de voir si ça va inclure sa famille, si ça va inclure lui-même, si ça va inclure des gens qui ont participé à l'organisation des émeutes du 6 janvier. Tout ça, c'est peut-être le dernier geste qui intrigue un peu tout le monde.
Ça, on va le savoir plus tard aujourd'hui, Luc, à moins qu'il nous l'annonce demain matin. Là,
tout le monde dit que ce sera aujourd'hui. Je trouve que ce que tu viens de dire, à mon avis, a encore plus de sens.
Parce qu'il va vouloir voler le show.
Il va vouloir voler le show à l'autre. Et il va le voler, ce big time. Là.
Écoute, il va avoir été une ordure jusqu'à la fin.
Ah oui, oui, c'est un déchet de la société. J'espère qu'on ne le verra plus jamais nulle part.
OK. Autre chose par rapport aux États-Unis, on passe-tu un petit peu à la COVID, mon ami? Parce que ça brasse quand même, hein?
Bien là, je regarde au Québec, là, ça va bien.
Oui, mais c'est le nombre de cas baisse.
55 décès. Bon, c'est pas mal. En Ontario aussi, ça va mieux, hein?
Bon.
1913 nouveaux cas, son plus faible nombre depuis le 14 décembre. Le nombre de patients en soins intensifs atteint pour sa part un sommet. Et là, on va voir ailleurs le cas du Brésil. Tu sais que le Brésil est un des pays les plus touchés, là, le plus touché étant les États-Unis. Le deuxième, l'Inde, et le troisième, c'est le Brésil.
Le Brésil qui est dirigé par le Trump latino-américain.
Ouais, voilà, hein? celui qui continue de vanter Trump et qui était contre le masque et le reste. Mais là, l'État brésilien d'Amazonas a commencé à transférer des patients atteints de COVID vers d'autres régions en raison de la surcharge des hôpitaux et ils n'ont plus d'oxygène. Il y a une ville dont on a souvent entendu parler, Manaus, hein, qui est une ville importante en plein cœur de l'Amazone, connue parce qu'il y a un opéra en plein milieu de Manaus, qui a eu un film à ce sujet-là qui était à Fitzcarraldo, c'était assez magnifique comme film. Alors, il a admis qu'il y avait un effondrement, le ministre de la Santé du Brésil, qui a admis un effondrement des soins de santé, et il faut savoir que c'était la ville la plus touchée dans la première vague aussi. Et là, le Brésil a été profondément choqué par des images circulant sur les réseaux sociaux qui montraient des familles de patients emmenant à l'hôpital des bonbonnes d'oxygène qu'elles s'étaient procurées par leurs propres moyens.
Hein, c'est quelque chose. Hein. Imagine-toi.
Et des médecins qui ont révélé dans les médias que de nombreux patients étaient morts asphyxiés faute de l'oxygène indispensable pour la respiration artificielle. Mm. Oh boy! En Chine, la Chine vit la pire résurgence de l'épidémie de COVID depuis mars dernier. Selon la Commission nationale de la santé, 118 Chinois ont été contaminés. Je te dis tout de suite, j'accorde aucune crédibilité aux chiffres que les Chinois rendent publics. Je n'y crois pas. 118 Chinois qui ont été contaminés au cours des 24 dernières heures contre 109 un jour plus tôt. Alors, là-bas, ils sont en train de construire un centre de quarantaine gigantesque, un peu comme ce qu'ils ont fait pour construire un hôpital à Wuhan, qui travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est pour ça que je trouve que les chiffres, tu comprends, ça se peut pas que ça soit 118 si tu es en train de construire un centre aussi grand. Là. Il doit en avoir plus que ça.
Ben oui.
Alors, moi, j'ai fait, grosso modo, le tour de la question. Aux États-Unis, à compter de demain, on est supposé d'avoir 1 million de vaccins par jour. Pendant 100 jours, c'est la promesse la plus solennelle du président Biden. Mm-hmm. Alors, on verra si ça va s'accélérer. Moi, j'ai l'impression que oui. Écoute, ils ont des moyens considérables. Quand ils se mettent ensemble, ils peuvent faire des grandes choses, les Américains.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis, si, je ne sais pas, Biden, à ma connaissance, n'a pas dit là, qu'il allait déployer l'armée là, dans l'opération vaccination.
Il a dit qu'il allait tout déployer. Il a dit qu'il allait tout déployer.
Ben, m'a dire, en tout cas, les Américains...
Il a parlé de garde nationale, il a parlé de tout ça. Il a dit qu'il allait mettre tous les moyens. Ce qui va arriver, c'est que la méthode que Trump avait choisie et son équipe, c'était nous, du fédéral, un peu comme ici, on envoie aux États les vaccins, puis ils s'organisent. Et là, ils se sont rendus compte que, bon, d'abord, il y a des disparités énormes d'un État à l'autre.
L'État
du Dakota Nord, c'est pas la Californie. Là, il a décidé que le fédéral allait s'impliquer directement, qu'il allait, s'il le fallait, construire des centres de vaccination. On parle d'en construire une quarantaine.
Si Biden décide de servir de l'armée, là, on va dire que ça va opérer sur un méchant temps, mon ami.
Oui, puis il a dit la garde nationale, qui est une garde, qui est une armée de réserve, mais qui est payée par les États.
Ouais.
Il a dit, on va faire appel à la garde nationale et les États vont être remboursés à 100% pour les coûts que cela va infliger.
Oui, la facture va être salée.
N'est-ce pas?
Luc, on se reparle demain?
Avec plaisir, Bernard.
OK, on s'en va à la pause. Au retour, Robert Pigeon, donc... vraiment, là, c'est une superbe tête, un de nos meilleurs là, dans le domaine de la police. Et puis là, il prend sa retraite. Puis moi, je veux y parler un petit peu de l'évolution de la criminalité au fil du temps. Là. Il y a quoi, 40 quelques années de métier. Et puis, tu sais, faire un peu le bilan de tout ce qu'il a fait. Puis il en a fait beaucoup. Restez à l'écoute.